Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous sommes à l'étude numéro 38 de la deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Le titre pour aujourd'hui sera « Le trésor de la parole de Dieu ». La parole de Dieu est importante. Dans son combat solitaire au désert, Jésus a mis en déroute le diable avec ses paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. Chers frères et chères sœurs, tu ne vis qu'une fois sur cette terre. Donc, le temps est infiniment précieux. Il faut en tirer le plus grand avantage. Car dans quelques années, tu n'auras plus les yeux assez bons pour lire, ni de cerveau à 100% pour comprendre, ni des mains assez sûres pour écrire. L'Ecclésiaste nous dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent. » Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Si encore jeune, tu parviens à une connaissance approfondie de Dieu par sa sainte parole, toute ta vie aura une orientation valable. Et cela dès le départ. La pensée du monde qui nous entoure est tragiquement contraire à celle de Dieu. Les idées courantes et leurs fausses valeurs nous pénètrent de tous les côtés et bloquent notre développement spirituel. Il n'est pas facile de s'en débarrasser. Partout, la vérité est mélangée à l'erreur. Nous sommes conditionnés, contaminés par les choses que nous voyons, lisons et entendons. Nous avons besoin d'être sans cesse corrigés et purifiés. Dieu est conscient de notre problème. C'est pourquoi il a fait écrire avec tant de peine, d'ailleurs, le fameux livre dans lequel il définit toute sa pensée. Cette définition est précise. Elle est la seule source de vérité absolue en notre possession. La Sainte Bible s'affirme être d'un bout à l'autre la parole de Dieu. Dieu a mis au moins 2000 ans pour la créer. Pour cela, il a fallu une quarantaine d'auteurs de toutes sortes, de milieux différents, qui n'avaient pour la plupart aucune possibilité de se connaître. On compte parmi eux des rois, des philosophes, des hommes d'État, des poètes, des paysans, des pêcheurs, des nomades et des prêtres. Elle est en réalité une bibliothèque de 66 livres, une littérature compréhensive d'une très, très vaste richesse. Et pourtant, la Sainte Bible possède une unité organique semblable à celle du corps humain, avec toute sa complexité, car entièrement inspirée et contrôlée par une seule intelligence divine. Pour bien des raisons, elle est le livre le plus remarquable que le monde ait jamais vu, d'autant plus qu'elle ne contient aucune erreur ou absurdité scientifique malgré sa grande antiquité. La première page de la Genèse suffirait pour attester son inspiration divine, car la correspondance est absolue entre les phénomènes énumérés dans ce chapitre et les conclusions fondamentales de la science la plus actuelle. Les faits sont exacts, et chose presque incroyable, l'ordre chronologique dans lequel ils sont énumérés et sont aussi absolument parfaits. L'auteur de ce document, qui est vieux de plusieurs milliers d'années, avait plus de 25 millions de milliards de possibilités d'erreurs contre lui. Et pourtant, malgré cela, il a su ordonner tous les détails correctement. Mais le plus impressionnant, c'est l'authenticité avec laquelle la Sainte Bible s'impose comme étant la sainte parole de Dieu. Dans tous les pays et dans chaque génération, elle répond aux plus profonds besoins de l'homme. En lisant ce livre, nous entendons la voix de Dieu dans notre conscience. Elle pénètre jusqu'au fond du cœur et elle possède la puissance de la transformer à l'image de Dieu. Le fait, on peut dire, je fais toujours une distinction, croyez-moi, entre lecture et étude. Voyons cela. Il n'est pas possible d'étudier sérieusement la Sainte Bible avant de connaître quoi ? Avant de connaître son contenu. C'est exactement comme si l'on voulait écrire un livre sur Einstein avant de connaître son œuvre. Il faut donc, en tout premier lieu, se familiariser avec le texte entier et la seule manière de le faire, c'est de le lire. Il n'existe pas de raccourci pour y parvenir. Il est impossible d'assimiler son contenu par une lecture fragmentaire ou interrompue. C'est d'ailleurs un livre qu'on peut lire et relire toute sa vie sans se lasser. Cette vue d'ensemble nous permet d'approfondir les détails dans une étude infiniment riche, passionnante et valable. Pourquoi lire la Bible ? Lis-la pour te régaler. Décide-toi d'abord de jouir de ta lecture de la Sainte Bible. C'est une aventure spirituelle presque incroyable. C'est le récit de la recherche de l'homme par son Créateur. Je dirais même quel est le billet doux qu'il t'adresse à toi personnellement. L'Esprit Saint qui a inspiré la Bible est aussi celui qui a créé les fleurs du printemps, les neiges de la montagne, la voie lactée, le visage d'un enfant et le miracle de l'amour. Lire la Sainte Bible, c'est partir chaque matin en balade avec Dieu. Et cela à la recherche du paysage fantastique de son royaume. Tu seras récompensé à l'infini. Il faut lire la Sainte Bible pour connaître Dieu. La Bible n'existe que pour révéler Dieu. On lit la Sainte Bible non pour en obtenir une connaissance académique, bien que celle-ci soit d'une utilité inestimable, mais pour connaître son auteur. La Sainte Bible, c'est le chemin qui mène à Dieu, car c'est par la Sainte Bible que nous connaissons Jésus-Christ. Si tu lis la Sainte Bible en criant à Dieu de se révéler, elle deviendra le miroir dans lequel tu verras sa face. Si tu la lis de façon simplement intellectuelle, ton âme n'y trouvera que stérilité. L'intellect et l'Esprit Saint doivent marcher ensemble. Tout aussi regrettable que l'intellectualisme et l'attitude contraire qui refuse d'apporter à la lecture de la Sainte Parole de Dieu l'intelligence et les moyens d'étude mis à notre disposition par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'intelligence de l'homme en le faisant à son image. Dieu veut faire de nous des hommes complets. Il faut lire la Sainte Bible pour maintenir ta vie de prière. La prière et la Sainte Parole de Dieu vont absolument ensemble. Elles sont comme une conversation téléphonique qui nous permet à la fois d'écouter et de parler. C'est un dialogue avec Dieu. Plus nous écoutons ce que Dieu veut nous révéler, plus notre prière devient inspirée et imprégnée de foi. Dieu l'oriente dans le sens voulu par son esprit et la rend ainsi de plus en plus efficace. Celui qui néglige la Bible voit sa vie de prière faiblir et se désintégrer. Dieu veut nous ouvrir son cœur. Écoutons bien. Lire la Bible, c'est pour nourrir ton âme. Ton corps a besoin d'une alimentation régulière et complète. Ton âme et esprit en a autant besoin, sinon plus encore. Il y a une foule de chrétiens qui vivent dans la médiocrité parce qu'ils négligent la sainte parole de Dieu, ils ne se nourrissent pas. Celui qui mange mal s'affaiblit. Le corps, nous l'avons dit, a besoin de 3 bons repas par jour, matin, midi et soir. Ton âme et esprit en a autant besoin. Donc, ne te prive pas de son pain quotidien. Lire la Sainte Bible, c'est pour fortifier ta foi. La foi vient de la Sainte Parole du Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi que tu possèdes a été créée en toi par l'Écriture sainte qui est donc la source de ta foi. Si tu veux que Dieu la développe, il te faudra y puiser profondément. Nous exerçons la foi lorsque nous prenons appui sur la sainte parole de Dieu. Elle est le fondement même de la foi. Plus nous connaissons sa sainte parole, plus nous saurons compter sur lui et mieux nous connaîtrons sa volonté. La meilleure façon de lire la Bible, c'est lire la Bible avec prière. L'homme naturel ou animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit Saint de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Aborder la sainte parole de Dieu avec son seul intellect, c'est donc de la folie. Nous dépendons de l'auteur du livre, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour nous enseigner sa signification. Il est donc nécessaire de demander à Dieu chaque fois son assistance dans la compréhension de son message. Dieu ne manquera pas de l'accorder à celui qui s'approche de lui dans un esprit d'honnêteté, d'humilité et de foi. Dieu a dit à Josué, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. » Cela est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 8. En effet, Josué réussit. Moïse ordonna au roi d'Israël de se faire une copie de la loi et de la lire tous les jours de leur vie. Deutéronome, chapitre 17, verset 19. Les rois qui ont fait cela, comme David, ont tous réussi. Dieu dit encore, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa joie jour et nuit et qui médite surtout la joie de la lire mais aussi méditer sa loi. Il est donc comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit carrément. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Alors que les autres hommes sont emportés comme la balle par le vent. Psaume chapitre 1, verset 4. Les grands hommes de Dieu ne laissaient jamais passer un jour sans lire les Saintes Écritures. Chers amis, toutes les hérésies et les fausses doctrines sont basées sur des passages isolés qui sont arrachés de leur contexte au mépris de la totalité de la Bible. En l'abordant de cette façon-là, on peut lui faire lire et dire n'importe quoi. Et c'est ainsi que Satan l'a cité pour tenter le Seigneur dans le désert. Il est dangereux de se limiter à certaines parties de la Bible seulement, car Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu chapitre 4 verset 4. Ton but doit donc être de la connaître, la Sainte Bible, d'un bout à l'autre, pas seulement l'Apocalypse. L'Écriture sainte contient la révélation complète de Dieu. Se contenter de quelques fragments seulement, c'est se priver terriblement et commettre un crime contre son âme et son esprit. Dans bien des pays, il existe des croyants persécutés qui donneraient n'importe quoi pour posséder une Bible. Et nous, qui l'avons entre les mains, la trouverions-nous trop ennuyeuse? L'immense privilège d'avoir accès à ce trésor nous rend d'autant plus responsables aux yeux de Dieu. En lisant l'Écriture sainte, toute entière, nous nous mettons effectivement à la portée de l'Esprit de Dieu. Il peut ainsi nous enseigner toutes choses comme Jésus nous l'a promis dans Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Chaque jour, il peut nous corriger, nous éclairer, nous ramener dans la vérité. Il nous protège face au diable, face au monde et à la chair. Il nous révèle peu à peu tous les secrets de son cœur. Il est un fait que nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce, et de ce fait, je vous recommande surtout de lire le Nouveau Testament. La matière du Nouveau Testament est absolument primordiale. Elle concerne le disciple du Christ directement. Elle contient les paroles de Jésus-Christ lui-même et des apôtres qui l'ont connu. Si l'on peut dire qu'une partie de la Bible est plus importante que le reste, il faut admettre que l'enseignement et la vie du Fils de Dieu constituent cet élément. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, et notez également, chapitre 28, verset 20. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit de commencer par ses propres enseignements, c'est-à-dire par les quatre évangiles. Nous savons tous qu'on n'apprend pas une langue ou une science en étudiant au hasard et de façon désordonnée. Si je commence aujourd'hui l'étude d'un livre à la page 179 pour revenir demain à la page 3, passer après-demain à la page 65 et ensuite à la page 200, comment puis-je espérer ainsi maîtriser mon sujet? Ma connaissance sera à jamais fragmentaire, disjointe, voire même dangereuse. Or, beaucoup de chrétiens abordent le Saint Livre de Dieu de cette manière-là. Il y a dans la Sainte Bible une suite, non seulement chronologique, mais aussi logique et surtout spirituelle. Elle commence par la création de l'homme et aboutit au grand jour du jugement et à la nouvelle création. Comprendre le tout, c'est savoir interpréter le détail. Une telle conception nous préserve du déséquilibre et de l'extravagance spirituelle qui est une tragique défaillance qui partout divise et appauvrisse l'œuvre de Dieu. Chers amis, si tu n'as pas d'objectif précis, tu finiras par te décourager. Ta lecture et ta prière deviendront difficiles et peut-être stériles. Tu perdras le fil et le sens de la Sainte Bible t'échappera. L'engrenage de ce monde écrasera le désir de ton âme et de ton esprit, et tu découvriras trop tard combien il est difficile de retrouver ton premier amour après l'avoir perdu. On peut en effet le retrouver, mais à quel prix? Si tu t'en remets à Dieu, il te maintiendra dans cette vision. Je conseille donc d'abord la lecture du Nouveau Testament, et cela en entier. Si tu lis en moyenne 3 chapitres par jour, tu atteindras ce but en 3 mois. 1 chapitre le matin, 1 chapitre à midi et 1 chapitre le soir, ou comme Dieu va te diriger selon le travail que tu dois exécuter pour vivre et faire vivre ta famille. Cela te maintiendra en forme toute la journée et te remplira le cœur d'une matière à réflexion formidable. Tu seras surpris par les progrès spirituels que tu auras faits. Je conseille ensuite la répétition de cette expérience. En 6 mois, tu auras lu tout le Nouveau Testament 2 fois et tu seras en mesure de répondre à une foule de questions. Aborder la Bible avec des œillères ecclésiastiques ou doctrinales, ça, c'est mettre une autorité humaine au même niveau que celle de Dieu. Dieu n'admet pas de rival. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus a été rejeté et crucifié au nom de la sainte parole de Dieu parce qu'il se heurta à la tradition des anciens. Les scribes tenaient leur interprétation pour aussi importante que l'Écriture sainte elle-même. Et il y a des églises qui font la même chose. Pour Jésus-Christ, la parole de Dieu était la seule autorité. Je ne veux pas dire par là que toute autre lecture soit exclue ou que nous ne devions pas écouter une prédication. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Acceptons de Dieu tous les moyens d'apprendre qu'il nous offre, mais gardons-nous d'interpréter la Sainte Parole par une autre autorité que la sienne. On reçoit donc avec reconnaissance tout ce qu'un Calvin, un Luther, un Hudson Taylor ou d'autres peuvent nous dire de valable, mais gardons-nous de soumettre la Sainte Parole de Dieu uniquement à leur autorité. Tout être humain est faillible. Toute vérité nous parvenant à travers un homme, que ce soit même le pape, subit une certaine déformation, comme la lumière du soleil qui perd certains rayons en passant au travers d'une vitre. Un brin de soleil à la fenêtre, c'est réjouissant, mais 100 fois mieux est le plein soleil au grand air. Pour définir une vérité biblique, il faut absolument se limiter à l'Écriture sainte. La Bible contient toute la vérité spirituelle nécessaire à l'homme. L'erreur est pratiquement toujours une demi-vérité. On est constamment exposé à ce danger si l'on base ses conclusions sur des passages bibliques totalement isolés. La Sainte Bible s'explique par elle-même. Dieu est tout à fait capable de se faire comprendre. Sur chaque sujet dans la Bible, il y a un passage ou moins qui est absolument clair. N'admettons à l'esprit honnête qu'une seule interprétation. Il faut donc prendre ce passage comme étant la clé pour interpréter les passages moins clairs. La Sainte Bible ne se contredit pas. S'il y a une contradiction apparente, il faut chercher dans toute la Bible l'explication de cette difficulté-là. Si nous demandons sincèrement au Père de nous enseigner son Saint-Esprit, son Esprit Saint nous aidera à repérer dans toute l'Écriture sainte tous les passages qui sont nécessaires. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est sortir un verset ou un demi-verset ou deux de leur contexte et ainsi bâtir ensuite une sorte de théologie là-dessus. Toutes les erreurs se réclament de la Sainte Bible et on peut le dire qui se permettent ce genre de sophisme. Ce sont des gens qui ont piqué des versets pour les changer, les tordre, pour faire leur propre théologie. Or, manipuler de la sorte la parole de Dieu, ça, croyez-moi ou pas, c'est de frôler l'enfer. Il faut aussi, répétons-le, avoir assez d'humilité, pourquoi pas. C'est pas défendu d'être humble, bien au contraire. Et cela pour admettre, pour que moi j'admette mon ignorance et que j'ai assez de patience pour pouvoir m'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il m'éclaire par son Esprit Saint. La nécessité d'une discipline est absolument indispensable. Le mot disciple veut dire élève ou apprenti. Nous sommes à l'école du Christ, nous avons tout à apprendre. Il faut du temps et il faut du sérieux. Le chrétien paresseux sera toujours insatisfait. Il restera chétif, comme un enfant mal nourri. Le chrétien sérieux sera par contre de plus en plus émerveillé de la révélation grandissante de Dieu. Sa recherche lui apportera une récompense au-delà de toute comparaison avec les efforts qu'il aura fait pour la comprendre. La parole de Dieu deviendra ainsi une pure joie. La discipline de Christ n'est ni du légalisme, ni de la servitude. Elle est l'expression spontanée de l'amour. Comme le jeune homme se discipline, se maîtrise afin de mieux aimer et aider sa jeune épouse, ainsi le disciple de Jésus-Christ désire par-dessus toute chose le contraire de près et de servir ainsi plus efficacement le Seigneur. Croyez-moi, de braves chrétiens qui ne mettraient jamais leurs pieds dans une salle de cinéma admettent volontiers que le cinéma vienne s'installer dans leur salle à manger. Nos ancêtres n'avaient pas ce problème-là. Quand ils fermaient la porte de leur maison, tout à l'intérieur pouvait leur parler de Dieu. Christ y était le maître incontesté. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15. Le chrétien doit se poser sérieusement la question: peut-on avoir la télévision chez soi sans être contaminé par le monde? Soyons sûrs que si nous vexons le Saint-Esprit, la présence de Christ disparaît de chez nous. Il refusera d'habiter une maison où on respire le souffle et où on entend le rire de son ennemi. Tu contestes peut-être, et je comprends cette réaction. Mais voyons, j'entends dire, on n'est pas appelé à être fanatique tout de même. Il y a tout de même de bonnes choses à la télé. Fanatique? Non, non. Le disciple de Jésus n'est pas appelé à être fanatique. On sait bien que les choses ne sont pas les mêmes aujourd'hui que du temps de Jésus-Christ. N'importe quelle personne moyennement intelligente sait cela. Tout a changé. Il se doit donc d'être un homme ou une femme avisée, renseigné, plein de bon sens, avec un esprit ouvert et aux prises avec les problèmes et les possibilités de sa génération. Bien sûr, on ne peut pas partir dans une cabane au fin fond de la forêt ou avec une chèvre sur le Mont Blanc. Oui, j'exagère. La télévision n'est évidemment pas une chose mauvaise en elle-même. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Entre les mains de Jésus-Christ, elle pourrait changer pour le mieux notre pauvre planète. Si je pouvais l'utiliser pour faire connaître Jésus au monde, je le ferais. Mais ce n'est pas encore Jésus-Christ, mais c'est plutôt son ennemi qui contrôle les affaires de ce monde avec Google, etc., et qui en détient les ressources. Il est d'ailleurs le tout premier à reconnaître l'immense potentiel stratégique de cet instrument. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. C'est donc pourquoi, c'est pourquoi je ne veux aucunement me laisser saturer de son point de vue, surtout le soir, quand je suis désarmé par la fatigue. Il y a, c'est indéniable, des programmes intéressants et parfois même très utiles, mais il y en a d'autres qui sont tout le contraire. Et combien il est difficile de choisir et encore plus de prévoir, car même les films bien, qui sont entre guillemets bien, cachent souvent une philosophie négative et souvent même dangereuse qu'on absorbe progressivement sans en être très conscient. Tout le problème consiste donc à maîtriser cette bête. Sans cela, c'est elle, inévitablement, qui nous maîtrise. Le danger réside donc dans l'habitude, car à longue échéance, notre optique est profondément modifiée par l'effet cumulatif de ce que nous voyons et ce que nous entendons. Ainsi, nous perdons l'optique de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. À 22, et vous pouvez noter aussi 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2 et ajouter Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 6. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Saint Matthieu chapitre 6 verset 22 et 23. Ça, c'est un fait psychologique bien reconnu que les impressions reçues par l'œil sont les plus marquantes et restent dans le subconscient. La télévision nous atteint à la fois par la parole et par la vue, d'où sa grande puissance. Si Saint Paul n'avait pas encore le problème de la télévision, il en avait un dans l'église tourmentée de Corinthe qui ressemblait de tout près à celui que nous affrontons. Saint Paul y consacre 3 chapitres. Je te conseille de lire donc en entier 1 Corinthiens chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. Seulement, au lieu de l'expression « viande offerte aux idoles », lis chaque fois le mot « télévision ». Au lieu de manger un aliment, lis plutôt « regarder un programme » et ainsi de suite. Si tu es comme moi, tu seras étonné de l'actualité de ce passage et infiniment plus éclairé par l'argumentation de l'apôtre. Voici en résumé l'optique de saint Paul. Vous savez que j'ai tout sacrifié, tout souffert, tout cela pour vous. Et maintenant, vous avez l'effronterie de me demander si vous pouvez flirter un peu avec le monde d'où Dieu vous a délivré par le sang de Christ, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. N'avez-vous pas compris, ou n'avez-vous rien compris, de la valeur de ce sang précieux? L'apôtre Paul résume, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Et puis il continue, il conclut. « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31 à 33. « Mon cher frère, ma chère sœur, si tu peux réellement regarder un programme de télévision pour la gloire de Dieu, vas-y. Sinon, il faut y ajouter un immense point d'interrogation. Il y a quelque temps, les techniciens de la firme Coca-Cola tentèrent en Amérique une expérience ahurissante. Au cours d'un film quelconque, ils ont fait passer de manière répétée sur l'écran la phrase « Buvez Coca-Cola ». Mais cela a une allure si rapide, un cliché sur 20 environ, que personne n'était conscient de l'avoir vu. Pourtant, l'œil la transmettait au subconscient, et cela avec le résultat que les ventes de Coca-Cola ont pris un essor vertigineux et les stocks de boissons ont été épuisés. On pourrait faire la même chose avec des choses sataniques. Le public, une fois averti, en a eu tellement peur qu'une loi a dû être décrétée aux États-Unis qui interdit totalement ce genre de manipulation psychologique. Presque tous les pays du monde sont maintenant des dictatures où, naturellement, la télévision devient un instrument du pouvoir absolu. Même dans les quelques démocraties qui restent libres, la télévision est la plupart du temps soumise à un monopole plus ou moins contrôlé par l'État. La technique moderne a trouvé des moyens pratiquement irrésistibles de manipulation psychologique qui seront certainement de plus en plus appliquées dans le monde. On peut endoctriner les gens en profondeur et à leur insu si la loi ne l'interdit pas. Le livre de l'Apocalypse parle d'un dictateur mondial, l'Antéchrist, qui se fera adorer par une image qui parle. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Abruti par des années de télévision, les gens avaleront facilement le programme satanique. Quoi de plus logique? Dieu te laisse libre, mais il te met en garde. Tu n'as qu'une vie. Elle disparaît déjà heure après heure. Ton temps vaut plus que tout le reste. Comment vas-tu l'utiliser? Ce serait une sottise inimaginable que d'en perdre le cinquième ou même le septième devant la boîte. Ne faut-il pas mieux ou ne vaut-il pas mieux pour toi de mettre la dîme de ton temps à contempler la face de Dieu? Pour terminer cette étude, très courte exceptionnellement, il est possible de se discipliner en se limitant à voir les nouvelles de 20 heures et les stations chrétiennes qui y sont nombreuses maintenant, soit en anglais et en allemand, ou en d'autres langues, suivant les pays où vous habitez. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais simplement vous donner quelques paroles qui me sont venues avant de commencer cette étude, qui sont venues dans mon cœur par le Seigneur. La grandeur de Dieu se manifeste prodigieusement en ceci: lui partout présent et tout-puissant, lui qui gouverne souverainement l'univers et de ses yeux en sonde les profondeurs. Il prend soin en même temps des choses les plus petites et les plus humbles. Il compte tous les cheveux de notre tête. Celui qui discerne la grandeur de l'amour paternel de Dieu dans le fait qu'il se soucie des plus petites choses, celui-là a saisi le plus profondément l'être et la gloire de Dieu. Demande-lui la faveur de voir avec de tels yeux et tu apercevras partout les traces de son action souveraine. Même dans les plus petits événements, tu te sentiras conduit par lui. Tu te tourmentes toi-même. Tu es un être compliqué. Tu ne peux pas accepter ta nature. Cependant, Dieu t'a créé. Il t'aime. Il veut te délivrer. Il te montre la route. Accepte d'être ce que tu es en Jésus. Dieu fera de toi celui que tu n'es pas encore, car il accorde sa grâce aux humbles. Jamais ceux qui souffrent ne sont oubliés du Père, car il lui rappelle sans cesse les souffrances de son Fils unique. Ne serait-ce qu'à cause de cela, le cœur du Père s'émeut pour eux, et cela d'un grand amour, plein de compassion. Crois-le, les temps de crise nous apprennent que Dieu, plus qu'en toute autre époque, pense intensément à ses enfants afin de les faire accéder à son secours. Aussi attend-il que ses enfants, tenant compte des expériences passées, s'arment de cette parole en prévision, en prévision des temps menaçants. Tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Exprime toujours à nouveau dans ta prière cette certitude qui dit « Je possède un libérateur. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Sous sa protection, en temps de malheur, je serai non seulement à l'abri caché en lui, mais débordant de joie profonde, et cette assurance de foi te soutiendra. » Nous allons terminer par une toute simple prière que chacun de vous peut répéter ou prendre quelques notes et la prier en changeant certaines phrases selon ce que le Saint-Esprit vous donne. Prions donc cette simple prière. Dieu, notre Père, plein de bonté, la journée de hier n'est plus, et celle de demain n'est pas encore. Tu es présent aujourd'hui, car tu es l'Éternel, celui qui a été, qui est et qui sera éternellement. Je n'ai donc pas besoin d'attendre demain pour avoir ton salut et être sauvé. Si je souffre physiquement, respire difficilement, ou si j'ai les nerfs tendus, je n'ai pas besoin d'attendre en me demandant si tu viendras à mon secours. Car tu as dit, c'est maintenant le jour du salut. Alors, dès à présent, je compte sur cette promesse. Je remets mes problèmes entre tes mains et espère en ton salut. Tes promesses sont éternelles et comment pourrais-je en être exclu? Ta parole n'est pas vaine. Ton règne viendra. Je remets tout entre tes mains et je ferai tout mon possible pour œuvrer en ton saint nom. Me voici devant toi. Tu es en moi, avec moi, et je suis en paix. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et comme je le dis chaque fois, Dieu voulant, à demain matin, Diane debout. Je suis obligé de le faire tôt le matin à cause des bruits épouvantables en dehors. À partir de 7 heures, ça commence. À bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.